des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Émilie Julia.
Bienvenue dans cette émission. Nous parlons aujourd'hui d'un artiste japonais décédé en 1849. On dit de lui qu'il est le plus grand graveur de notre temps. Il se décrivait lui-même comme le vieillard fou de dessin. Okusai a réalisé des milliers de peintures, de dessins, d'estampes, de livres illustrés et de manuels didactiques. Ce japonais avec les fameuses 100 vues du mont Fuji va jusqu'à inspirer nos peintres européens tels que Degas, Van Gogh, Gauguin ou Monet. Regarde donc sur l'homme et son œuvre. Pour ce faire, nous accueillons Nelly Delay, historienne d'art et spécialiste du Japon. Bonjour.
Bonjour.
Elle est l'auteure d'un coffret de 3 livrets reliés à la japonaise, édité chez Azan Éditions, dans lequel justement nous pouvons voir les 100 vues du mont Fuji. Nelly Delay, ce qui frappe avant tout, c'est la personnalité de Okusai. Il se plaisait à changer de nom et de lieu. Il était un peu nomade, avec une personnalité authentique. C'était une personne vraie.
Oui, c'est quelqu'un de tout à fait extraordinaire pour nous occidentaux, bien entendu, mais pour les Japonais eux-mêmes, et pour lui, parce qu'il s'était donné à lui-même le nom du vieillard fou de dessin.
Parce qu'il restait tout le temps lui-même.
Ah, totalement. Il avait une curiosité pour la vie qui lui faisait représenter une mouche, une immense vague, un coup de vent dans les arbres, enfin. Tout ce qui était vivant le passionnait. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il était né dans un fossé, un peu comme Descartes. Voilà, il était né dans un fossé de parents inconnus. Il a été recueilli par une famille de polisseurs de miroirs. Et donc, le début de sa vie a été quelque chose... Enfin, il est arrivé là, venant de nulle part et allant on ne sait où. Et toute sa vie, il a changé de nom et changé de lieu pour vivre. Et il suivait la course de l'étoile polaire. C'était un être assez étrange dans sa manière d'être, étrange pour ses contemporains aussi, qui le voyaient comme un génie et comme un fou. Et il s'est appelé lui-même le vieillard fou de dessin. Et c'est vrai.
Est-ce qu'il a été influencé par justement cette partie de sa vie solitaire, une naissance sans parents ?
Vous savez, c'est difficile de retracer la vie de quelqu'un qui justement n'a laissé aucune trace autre que son œuvre, mais aucune trace de ses sentiments, de ses goûts. Ce qui peut le mieux nous faire rapprocher Okusai, c'est son œuvre elle-même. Sans ça, nous savons très très peu de choses de sa vie, sinon les différents noms qu'il a adoptés, qui étaient en relation avec, je vous le disais, la course de l'étoile polaire. Et il a changé, je crois, 54 fois de lieu, et il vivait comme un clochard, comme un pauvre homme, et ça lui était totalement égal.
Comment on change de nom ? Une cinquantaine de fois dans sa vie ?
Ah oui, absolument. Chaque fois qu'il changeait de lieu d'habitation, il changeait de nom. Ou s'il changeait de style aussi, il changeait de nom. Et donc, je crois que c'est 54, à peu près quelque chose comme ça. Enfin, il faut relativiser les choses, mais c'est de cet ordre.
Nelly Delay, qu'est-ce qu'il peignait ? Qu'est-ce qu'il inspirait ?
Tout. Absolument tout. Tout, par exemple... Je crois que je vous ai raconté cette histoire, mais je vais vous la raconter une fois parce que c'est très rapidement. Un jour, il est invité par le shogun, qui est donc le véritable gouverneur du Japon. L'empereur est incarnant le Japon dans son essence et dans sa durée, et le shogun incarnant le pouvoir réel
sur la vie. Le chef militaire.
Le chef militaire. Chef militaire et de toute administration en même temps. Alors, il est invité par le shogun qui lui demande de peindre quelque chose pour ses invités. Et Okusai, qui ne craignait rien, qui ne craignait pas de perdre la vie, qui ne craignait pas d'être emprisonné, rien du tout, voit un bout de papier quelque part, le prend, voit une sorte de pot de minium ailleurs, le prend, et voit un coq qui passait par là, prend le coq, lui plonge les pattes dans le pot de minium, et le lâche sur le grand rouleau de papier. Alors vous voyez ce que peuvent faire des pattes de coq qui se sauvent, et il dit au shogun, bien voilà, ce sont des feuilles d'érable à l'automne sur une rivière.
Que dit le shogun ?
Le shogun s'incline devant le génie et devant l'audace.
Est-ce qu'on peut évoquer le contexte de l'époque ? Peut-être revenir sur un environnement qui l'aurait influencé et conditionné pour ses œuvres ?
Oui, certainement, parce que il a vécu donc les dates. Vous savez, les dates sont très approximatives, mais on donne en général 1760-1849. Vous voyez, c'est la fin du 18e, le début du 19e. Il incarne plutôt le 19e siècle, d'ailleurs. Le Japon, à ce moment-là, vous aviez deux villes. Vous aviez la ville de Kyoto, qui était celle de l'empereur, avec un art de cour qui se poursuivait dans cette ville, à travers l'école impériale de peinture, et puis la ville de Edo, où résidait le shogun, et où résidaient des marchands, des petits artisans, etc., et où arrivaient quelques bateaux. Il y avait un grand trafic maritime qui se faisait dans cette ville. Et donc, c'est pour cette société que Kusai a travaillé, comme les autres peintres de son époque, qu'on appelle l'ukiyo-e. C'est l'art des gens des villes, qui se sont dit que... Ils avaient quand même, enfin c'est une très longue histoire, je ne vais pas vous prendre du temps pour vous raconter ça, mais même ces gens qui n'avaient pas reçu d'éducation parce qu'ils étaient pauvres et qui n'avaient aucun accès à la culture traditionnelle, avaient reçu des possibilités de lecture et de choses comme ça par des moines. Et donc ils avaient appris ce qui s'était passé dans le passé de leur pays. Ils considéraient que ce passé était aussi le leur, mais que la technique suffisait et qu'ils pouvaient s'inspirer de leur propre vie. Je pense qu'on pourrait comparer avec ce qui s'est passé en France au XVIIIe siècle, vous voyez, quelque chose comme ça, c'est-à-dire on est sorti des sujets très classiques pour s'intéresser à la vie quotidienne, XVIIIe siècle plutôt, disons, et le début du XIXe. Il y a un parallèle qu'on peut faire entre les deux civilisations.
Quels sont les points forts de sa personnalité ?
Doksai ? Travailler.
Quelle est une vie type, une journée type de Hokusai ?
Alors ça, je vais inventer. Je ne peux pas savoir. Il n'y a aucun récit. Imaginons. Alors, imaginons qu'il habite une petite maison dans la campagne et que la première chose qu'il fait, si c'est le printemps, c'est d'abord de s'épouiller. C'est-à-dire, je pense qu'il vivait vraiment comme un clochard et qu'il faut le voir comme ça. C'est-à-dire, il doit faire une sorte de toilette sommaire et puis s'étirer et regarder la lumière et regarder tout ce qui se passe autour de lui. Serrer une sorte de grosse toile autour de ses reins et puis s'ébouriffer les cheveux, entrer dans sa cabane, regarder où sont ses pinceaux, voir ceux qui sont encore propres, ceux qui sont sales, éventuellement les jeter ou les nettoyer, et puis tout de suite se saisir d'un papier pour représenter une mouche qui vient de voler sous son nez.
Quelle est sa technique, sa façon de peindre ?
L'encre, essentiellement l'encre. Alors, il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de dessins, beaucoup de peintures, y compris des peintures très savantes sur paravent. Et là, c'est une technique évidemment différente. Souvent sur des fonds d'or, avec des peintures, des pigments extrêmement raffinés. Donc ça, c'est une chose à part. Mais ce qui était sa technique immédiate, disons, pour peindre, c'était une série de pinceaux et de l'encre. Et donc, son expression première était le dessin. Et ça a été un dessinateur absolument génial. Je crois qu'on pourrait faire des comparaisons, sans aller trop loin, mais des comparaisons avec Léonard de Vinci. Vous voyez ?
Ah bon ?
Quelqu'un pour qui le principal de la vie était de voir et de pouvoir transmettre cette vie, d'être une sorte de passerelle entre la vie et les êtres humains, entre ce qu'ils voyaient et ce qu'ils pouvaient donner à voir aux autres. Voilà.
Il fait aussi beaucoup d'estampes japonaises.
Alors, l'estampe arrive au Japon justement au XVIIIe siècle. C'est un art, avant il n'y avait que les peintures. L'estampe est l'art des gens des villes. C'était un art bon marché, et qui est arrivé avec, comment dire, l'essor de cette ville de Edo, où il y avait à la fois des artisans, des marchands, des gens riches aussi, ceux qui faisaient du commerce par le port de Edo, donc. Et l'activité. Alors, ces gens se sont dit que de représenter des nobles du XVIIe siècle ou d'autres siècles, c'était très bien, très beau, qu'ils en avaient connaissance pour les plus riches d'entre eux, mais qu'il fallait un art qui puisse leur être accessible. Ils ont inventé ce système de l'estampe, c'est-à-dire une gravure sur bois, qui peut être reproduite en plusieurs exemplaires. C'est-à-dire que vous faites un tirage à partir d'un bois gravé, d'un dessin original d'abord, gravé sur bois. À partir du bois, vous pouvez graver, vous pouvez tirer sur papier un certain nombre d'estampes. Et donc, un certain nombre de personnes pouvaient posséder une œuvre d'art. Donc, ces gens qui étaient à l'écart de l'art officiel, par l'estampe, ont conçu et favorisé un art qui était le leur et qui les représentait eux. Et donc, on appelle cet art l'art des gens des villes, l'art des chenines, et c'est l'art de l'estampe. C'est une technique très particulière qui a commencé au XVIIIe siècle et qui s'est poursuivie jusqu'au début du XXe, et encore aujourd'hui, je crois.
Alors, il est très connu pour ses estampes. Quelles sont ses œuvres les plus connues parmi ses estampes ?
La vague.
La fameuse vague.
La célèbre vague.
Qui a inspiré d'ailleurs des musiciens.
Debussy.
Comme Debussy.
Oui. Non, mais les estampes de Kusai sont venues en Europe assez rapidement. Parce qu'il y a eu la grande exposition universelle à la fin du 19e siècle. Il y avait des marchands japonais qui ont apporté des œuvres d'art japonais. Il y avait un certain Hayashi, qui était un marchand d'œuvres d'art. Et il a, lui, apporté des estampes. C'est comme ça que les impressionnistes ont connu l'art japonais et s'en sont, j'allais dire, emballés, enfin, ont été absolument enthousiasmés par cet art.
Vous pensez que si Hokusai n'avait pas inspiré les Monet, Van Gogh et Gauguin, nous n'aurions pas eu l'art impressionniste ?
Oh si, 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 ça je pense que si. Mais d'ailleurs, quand on dit impressionné, c'est une chose un peu particulière. Je crois qu'il faut voir que la société japonaise avait évolué jusqu'à ce stade et que la société occidentale avait aussi évolué jusqu'à ce stade. Mais ça veut dire que c'était tout qui évoluait. À la fois la lumière, un fait très important, le fait que les peintres sortent de leur atelier pour aller peindre à l'extérieur. Ça s'est passé en Occident, en France en particulier, où les peintres allaient à Honfleur, par exemple, ou à Fontainebleau, ou dans d'autres lieux. Au Japon, c'était la même chose, c'est-à-dire on sortait de son atelier et on allait dans la campagne. Et donc, le thème du paysage a été un thème extrêmement important, je dirais simultanément, au Japon et en Europe. Et quand les deux groupes de peintres se sont rencontrés à travers les marchands et les collectionneurs, ils se sont trouvés plutôt frères plutôt que de s'influencer les uns les autres. Ils se sont plutôt reconnus, ils se sont connus d'abord et puis reconnus.
Donc revenons aux œuvres, pouvez-vous nous en citer quelques-unes ? On connaît bien les 100 vues du mont Fuji.
Oui, disons que les œuvres les plus connues d'Okusai sont les estampes. Les vues du Fuji, il y a d'abord 36 vues qui en réalité sont 40, mais on les appelle les 36 vues de Fuji, sont les plus connus, qui sont des estampes rectangulaires, vous voyez, mettons comme une feuille de papier, format habituel, qui correspondait aux, comment dire, aux planches dont on se servait pour la gravure. Alors, ce sont des normes qu'on peut retrouver, si vous voulez, je peux vous donner des chiffres précis. Mais disons que c'était...
Le mont Fuji l'inspire beaucoup.
Ah oui, non, mais absolument. Il se prend, je crois, pour le Fuji. Mais les planches... Non, alors les 36 vues du mont Fuji, c'est la première série donc. Et ce sont des estampes séparées. C'est une estampe, puis une autre estampe, etc. séparées. Il y en a environ 40. La plus célèbre, c'est la vague. Mais il y a aussi le mont Fuji tout seul, isolé dans l'espace. Il y a plusieurs tirages de cette estampe, dont le plus beau, à mon sens, est un tirage bleu, uniquement bleu, bleu et blanc. C'est tout à fait extraordinaire. Et cette série a beaucoup impressionné les impressionnistes. Et puis, en dehors de cela, il a composé la manga. Ce sont ces 15 volumes absolument fascinants, où dans chaque volume, il représente absolument n'importe quoi. Ça peut répondre peut-être à ce que vous me demandiez tout à l'heure. C'est-à-dire que vraiment tout l'inspire. Un enfant qui tombe, une mouche qui vole... du vent dans une branche de saule, enfin vraiment tout, un démon imaginaire, enfin voilà, tout est là-dedans. Et on peut comprendre, quand on voit ces fameux 15 volumes, que les Japonais contemporains et les Occidentaux s'y réfèrent pour libérer leur imagination et concevoir des mondes et des êtres qui sont au-delà de toute conception disons normale ou habituelle. Alors donc ça, c'est probablement son œuvre la plus capitale, les 36 vues du Fuji, la manga, et ensuite les 100 vues du Fuji, qui sont également un livre.
Alors vous avez rassemblé quelques œuvres dans un joli coffret,
oui.
Qui en fait ouvre sur 3 petits livrets, oui. Reliés à la japonaise.
Oui.
Comment vous avez sélectionné ces œuvres ?
Eh bien, c'est la copie. C'est la transcription, si vous voulez, d'un original. C'est-à-dire que l'original, c'est exactement ça. C'est 3 volumes séparés qui composent un ensemble. Et c'est ce qu'on appelle les 100 vues du Fuji. Mais Okusai, il les a composées sous cette forme, c'est-à-dire 3 volumes.
Vous voulez dire que Okusai lui-même avait fait ce type de coffret ?
Ah, pas ce type de coffret. Il a, si vous voulez, ça, c'est une présentation pour que ça circule, parce que les ouvrages sont très fragiles. C'est un papier très mince et les couvertures elles-mêmes sont dans un papier assez souple. Mais le fait qu'il y ait 3 ouvrages séparés, et ces 3 ouvrages-là sont exactement son... Je crois que c'est la première fois, d'ailleurs, qu'on les reproduit en Occident. Mais c'est la série telle que... Alors, je peux vous raconter quelque chose ?
Bien sûr.
Très vite, on va essayer d'aller très vite.
Allez-y.
Bon. Il y a beaucoup d'incendies à Edo. Alors, les ateliers de gravure brûlaient, le papier brûlait, les planches brûlaient, etc. Enfin, donc, une œuvre n'avait pas une existence ni très longue, ni forcément définitive. Okusai a commencé... Il était fou du Fuji. Et il considérait que c'était son œuvre ultime. Il a écrit à son éditeur habituel... en lui disant qu'il allait composer 3 volumes, le Fuji sur 3 volumes, que ça allait faire 100 vues. Il a donné les 2 premiers volumes à l'éditeur, et il exigeait qu'un certain graveur fasse cette œuvre, parce qu'il avait confiance en lui, et pas en un autre. Et donc, les 2 premiers volumes ont été composés et gravés d'un coup. Ensuite, les ateliers ont brûlé. Et puis, il y a eu une sorte de, comment dire, pas de famine, mais enfin de grande pauvreté. Et le 3e volume, qu'Okusai avait dessiné, n'a pas été gravé en même temps que les 2 autres. Quand les choses se sont un peu arrangées sur le plan économique et sur le plan de l'édition, alors les éditeurs ont plutôt imprimé, parce que c'était déjà gravé, le 3e volume avec les 2 premiers. Et c'est ainsi que les 3 volumes voulus par Okusai, se sont trouvés imprimés ensemble dans un 2e temps, disons. Premier
D'accord.
temps, 2 volumes, 3e temps, les 3 volumes. Et ces 3 volumes, alors je vous dis très vite une chose, les premiers volumes étaient en noir et blanc, et quand on a pu imprimer les 3 volumes ensemble, alors à ce moment-là, il y a eu un passage d'une sorte de rose très pâle, qui donne une sorte de vie, enfin plus de vie, à l'ensemble. Mais ces 3 volumes constituent l'édition originale des 100 vues d'Okusai. Ça n'a jamais été publié en Occident.
Et je conseille à nos internautes de se plonger justement dans ses œuvres à travers ce coffret. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup Nelly Delay d'avoir été avec nous. Et je rappelle donc que vous pouvez trouver en librairie ce coffret. Il est édité aux éditions Azan. Mm-hmm.